Avertissement. Cette émission peut provoquer des débats et des prises de position pas comme les autres.
Vous écoutez
Sophie Durocher.
Vous avez sûrement entendu parler au cours des derniers jours du projet de loi 2 du ministre de la Justice, Simon Jolin-Barrette, une refonte, en fait, une réforme du droit de la famille, mais qui a aussi beaucoup d'implications pour les personnes transgenres. Et ce matin, dans le Journal de Montréal, Journal de Québec, dans la section « Faites la différence », où on vous invite à vous prononcer sur différents enjeux, il y a une lettre d'Alexandre Bédard, une lettre qui s'intitule « Qui suis-je pour décider du sexe de mon enfant à naître », donc une référence directe au projet de loi 2. Alexandre Bédard, qui est conseiller aux enjeux trans chez Alliance Arc-en-Ciel de Québec, est au bout de la ligne. Monsieur Bédard, bonjour.
Bonjour, ça va bien?
Ben moi, ça va très bien. Écoutez, j'ai lu votre lettre avec beaucoup d'intérêt. Vous vous adressez directement au ministre de la Justice, Simon Jolin-Barrette. Qu'est-ce que vous voulez lui dire à Monsieur Jolin-Barrette?
En fait, je pense que je veux juste simplement qu'ils comprennent peut-être l'enjeu que ça peut avoir de faire un projet de loi de la sorte, mais sur plusieurs aspects de la communauté trans, que ça soit les personnes intersexes, que ça soit les personnes trans comme moi-même. En fait, ça touche plus qu'un aspect seulement. Il y a plusieurs personnes trans qui ne désirent pas avoir une opération génitale et qui, avec ce projet de loi-là, auraient l'obligation, dans le fond, d'indiquer le sexe et le genre sur leur papier officiel. Donc, ce qui, en quelque sorte, fait un coming out à chaque personne à qui on présente nos pièces d'identité.
D'accord. Donc, ce que vous contestez, on va commencer par le début. Vous m'avez parlé d'abord de personnes intersexes. Alors, juste, si vous le permettez, hein, j'espère que ça vous dérange pas. Pour beaucoup de gens, le mot intersexe, on sait pas ce que... Moi, je le sais, mais je veux dire, il y a beaucoup de gens qui nous écoutent qui savent pas ce que c'est. Alors, c'est ce qu'on appelait avant, et je sais que c'est un terme que, dans la communauté, vous n'aimez pas, mais c'est ce qu'on appelait avant quelqu'un d'hermaphrodite, c'est-à-dire quelqu'un qui naît avec soit deux des caractéristiques physiques des deux sexes ou c'est pas clair. Hein? Est-ce qu'on peut résumer ça comme ça?
Ben en fait, c'est une personne intersexe dans le fond, c'est quelqu'un qui va avoir en fait là, dans la société, on va dire au niveau médical, là, quand on détermine le sexe d'une personne, ça va être soit par les organes génitaux physique, donc ce qu'on voit, ou interne. Donc, une personne intersexe pourrait ne pas le savoir, pourrait avoir un ovaire, mettons, puis une prostate, avoir une apparence masculine. Donc, c'est quelque chose qui est déterminé au niveau physique. Et un enfant, exemple, qui naît avec un clitoris, un enfant fille à la naissance, là, biologiquement, qu'on dirait que c'est une fille, qui naît avec un clitoris qui est plus gros que la normale, ben on, à ce moment-là, on va dire, bon, ben, c'est une personne intersexe, alors choisissez, est-ce que vous voulez que ce soit un enfant qui soit vu fille au terme de la loi ou garçon, mais là, à ce moment-là, ça amène une opération. Donc, dans le temps, souvent, on faisait des chirurgies, on amenait, bon, un enfant qui naît avec un pénis plus petit que la normale, ben, on pouvait à ce moment-là peut-être l'opérer jeune. Puis c'est dans mon entourage, j'en ai une personne qui le savait même pas. Ses parents ont fait faire l'opération et il l'a su beaucoup plus tard quand cette personne-là s'est rendu compte que, dans le fond, son identité de genre ne correspondait pas au sexe qu'on lui avait assigné à la naissance, qu'on avait choisi pour cette personne-là.
D'accord. Vous dites qu'il y a dans ce projet de loi l'article 24 qui obligerait les parents le plus tôt possible à prendre une décision binaire, fille ou garçon. Et vous dites dans votre lettre que ce sont qu'on obligerait donc les gens à se conformer aux normes binaires instaurées par la société. Est-ce qu'on peut discuter quelques minutes, vous et moi, sur cette notion que le côté binaire, c'est quelque chose qui est instauré par la société? Vous pensez pas que c'est plutôt biologique, c'est-à-dire qu'il y a quand même une réalité biologique, qu'il y a une particularité physique féminine et une particularité physique masculine? Est-ce que vous niez ça?
Non, mais c'est sûr qu'au niveau biologique, tu sais, comme moi, je suis née fille, OK? Puis ça, je le démentirais pas, là. Physiquement, j'avais un corps de femme.
D'accord.
Par contre, à l'âge de 3 ans et demi, puis tu sais, je l'ai même en vidéo, je mentionnais que j'étais un garçon, très clairement. Dans mon temps, j'aime pas ça dire ça comme ça, mais dans mon temps,
ouais.
C'était pas connu l'identité de genre. J'ai quand même 33 ans. On n'en parlait pas, même quand j'ai passé par le secondaire, on n'en parlait pas encore dans les classes. Donc, moi, ça a été beaucoup plus tard que j'ai pu faire les démarches, ce qui a amené le fait que j'ai eu à faire des changements au niveau d'opération, comme faire enlever la poitrine, dont la mastectomie. J'ai dû la faire parce que ma poitrine s'était développée durant mon adolescence. Si la société avait été à ce moment-là ouverte comme elle l'est aujourd'hui, en ce moment, puisque le projet de loi veut pas va faire reculer les choses un peu, mais si elle avait été ouverte comme aujourd'hui, mais j'aurais pu avoir des bloqueurs pour un peu mettre pause sur mon adolescence, sur ma puberté, et ainsi me permettre de savoir est-ce que c'est vraiment mon identité de genre qui correspond pas à mon physique à la naissance, donc à mon aspect biologique. Mais la société amène, c'est sûr, des contraintes au niveau du binaire. Tu sais, moi, je suis un homme trans binaire, donc je me considère pas non-binaire. Donc moi je me considère homme. Fait que pour moi un projet de loi de la sorte, ça c'est sûr ça vient me heurter parce que c'est comme de me dire que parce que pour l'instant je vais pas vers les chirurgies génitales qui sont extrêmes, on me dit que je suis pas valide dans la société en tant qu'homme. Puis pourtant vous me croiseriez aujourd'hui et j'ai l'air d'un homme. Fait que tu sais, à un moment donné c'est ça qui est apeurant, c'est ça peut faire reculer les choses. Et moi, j'ai pas envie d'avoir sur mon permis de conduire, exemple, sexe féminin et identité de genre masculine. Moi, je me considère homme. J'ai pas envie d'avoir ce terme-là de femme. Et c'est ça, dans la société, c'est sûr qu'on a une société binaire, là.
D'accord. Donc, OK. Alors, donc, je veux juste.
Les filles en rose, les gars en bleu.
Oui, mais ça, c'est un peu un cliché, parce que bon, il y a plein de gens qui utilisent toutes sortes de couleurs, puis bon, je pense que, tu sais, je veux dire, je pense pas qu'il y a un enfant qui va être traumatisé parce qu'on l'a habillé en rose quand il était petit, puis je...
Non, c'est ça. Moi, si mon enfant naît, puis bon, justement, si c'est un enfant qui est intersexe, ben, tu sais, j'ai pas envie de choisir pour mon enfant si je le fais opérer plus vers fille ou vers garçon, tu sais. J'ai envie que de savoir si mon enfant se sent comment avant de prendre cette décision-là pour lui, là.
Oui, donc parce que c'est important, vous le mentionnez dans votre lettre, vous allez bientôt être père, donc c'est votre conjointe qui va accoucher bientôt, c'est ce que je comprends, je veux pas m'immiscer dans votre vie privée, mais juste pour... D'accord. Ben j'apprécie beaucoup hein cette discussion, je la trouve très intéressante puis très respectueuse. Donc j'aime beaucoup ça. Je veux juste revenir sur cette notion là, donc ce que prévoit le projet de loi, c'est que si on veut changer la mention de sexe à l'état civil, donc ce qui va apparaître, par exemple, sur notre permis de conduire, notre carte d'assurance maladie, si on veut faire un changement, on pourra le faire seulement après avoir eu une chirurgie. Donc, si vous avez simplement pris, comme dans votre cas, vous avez une chirurgie pour enlever les seins, vous avez pris des hormones, mais vous n'avez pas eu de chirurgie génitale, donc vous ne pourriez pas faire changer votre permis de conduire pour que ce soit, le sexe soit indiqué comme masculin, mais votre identité de genre pourrait être identifiée comme masculin. Donc, je veux que ce soit clair pour les gens qui nous écoutent. Bon, il y a beaucoup de gens, pas vous, mais il y a beaucoup de gens que je lis depuis le dépôt du projet de loi, qui disent que ce projet de loi est transphobe. Transphobe, ça veut dire une haine des personnes transgenres. Expliquez-moi, j'essaie de comprendre. On peut dire que on trouve qu'elle est discriminatoire, on peut dire qu'elle ne répond pas aux besoins des personnes transgenres, mais vous trouvez pas que qualifier ce projet de loi de transphobe, c'est exagéré, Monsieur Bédard?
Je dirais pas que c'est exagéré, parce que j'ai l'impression que c'est un peu un combat qu'on est en train de vivre depuis des années, et que là, on revient poser des questions qu'on a déjà posées en 2013 et 2016 quand on a changé cette loi-là. Et là, c'est comme de dire qu'on n'a pas ce droit-là de changer notre sexe mentionné dans les papiers. Donc, c'est un peu barbare de nous demander de faire des opérations. Puis, il y a ce terme-là qui est quand même gros, là, que j'utilise dans mon texte. Je dirais que transphobe n'est pas si lourd considérant la situation. C'est sûr que je vais parler de plus de mon côté au niveau homme-trans, mais au niveau d'un homme trans, tu sais, oui, on a la mastectomie, mais après ça, il y a l'hystérectomie pour faire retirer l'utérus. Et selon l'opération génitale choisie, si on en veut une, parce que c'est pas nécessairement obligatoire en ce moment, ben à ce moment-là, c'est de 2 à 5 6 opérations, même si ça va pas bien, peut-être plus. Et on parle de sur 3 ans et plus. Donc, pour une personne trans, d'être obligée de garder le sexe assigné à la naissance sur ses documents parce que, bon, le changement, même si la personne veut les opérations, dure, quasiment 5 ans, bien, à un moment donné, la testostérone a fait son chemin. Hein, fait que c'est constamment de devoir justement vivre cette discrimination-là et en plus de nous mettre à risque parce que la personne à qui je donne mes pièces d'identité, je ne sais pas cette personne-là si elle est ouverte au sujet de l'identité de genre et ça peut me mettre en danger. Et ça, je crois que c'est...
En quoi? Donnez-moi un exemple, M. Bédard, où si vous donnez votre permis de conduire au policier, vous avez peur de quoi? Que le policier vous tabasse parce qu'il n'aime pas les personnes transgenres? J'essaie de comprendre un exemple concret.
Oui. Dans tout ce qu'on voit là, qui se passe dans le monde, là, que ce soit pas seulement au Canada, là, c'est sûr que...
Non, mais parlez-moi au Québec.
On parle de la police, exemple. Là, si je me fais arrêter, ça se peut que je vais de la discrimination. Peut-être pas physique, mais ça peut être aussi de la discrimination psychologique. Donc, ça se peut que j'ai moins de privilèges, on va dire, que le reste de la société cisgenre qui est, bon, le sexe qui correspond au genre assigné à la naissance. Et, je vais le dire, là, mais blanc, au niveau de la diversité, on le sait qu'il y en a qui ont plus de privilèges dans la société. Et le fait de mettre ça sur mes cartes, ben moi, ça vient justement brimer ce privilège-là que en ce moment j'ai d'être un homme visuellement devant la société.
Dans votre texte, vous dites justement, quand vous parlez des opérations au point de vue des organes génitaux, vous dites de la mutilation et que c'est barbare. Ben moi, j'en connais des gens qui ont subi ces chirurgies-là, qui ont pas subi, mais qui ont eu ces opérations-là. Je suis pas sûre qu'ils aimeraient ça beaucoup, lire votre texte, puis voir associer ça à des mutilations et quelque chose de barbare. Je comprends pas pourquoi vous avez utilisé ces termes-là.
Justement, pour la partie de la communauté qui ne veut pas subir ces opérations-là. C'est pas des opérations qui sont douces.
Est-ce que vous n'êtes pas en train de porter un jugement, justement, sur les gens qui, de leur plein gré, ont choisi cette option-là je pense, mettons, à Michel Blanc, là, je suis pas sûre qu'elle trouve ça drôle de lire votre texte puis de voir que vous associez ça à quelque chose de barbare puis des mutilations.
C'est pas tant l'opération qui est barbare, c'est le fait de se faire obliger de le faire qui est barbare.
Ben c'est pas une obligation de le faire.
Pour moi, ben si moi je veux au sein de la loi, tout ça, avoir des cartes d'identité qui me représentent moi, ben en ce moment je me sens obligé. Puis je vais être vraiment honnête avec vous. Moi j'ai même pas encore pris ma décision et depuis que le projet de loi a sorti, je me sens obligé. Je me sens poussé vers ça. Puis c'est un sentiment qui est pas agréable.
Est-ce que vous pouvez comprendre, Monsieur Bédard, puis encore une fois, j'adore votre discussion, puis j'apprécie le fait qu'elle soit vraiment respectueuse, cette discussion-là. Est-ce que vous pouvez comprendre, par exemple, que il y a des gens qui sont pas à l'aise, par exemple, dans les prisons, dans les endroits pour les femmes victimes de violences, qu'on veut s'assurer que il y a pas quelqu'un qui a encore les organes génitaux mâles, par exemple, et qui se retrouve en prison avec des femmes ou qui se retrouvent dans un centre pour les femmes victimes de violences conjugales avec des femmes. Est-ce qu'il n'y a pas une certaine préoccupation, disons ça comme ça? Est-ce que vous pouvez la comprendre, cette préoccupation-là?
Oui, je comprends très bien ça. Et si justement, avec l'Alliance Arc-en-Ciel, en ce moment, on a un projet au niveau des foyers d'hébergement, là, que ce soit thérapie ou autre. On comprend cette réalité-là, mais en même temps, il faut comprendre aussi les changements hormonaux. Tu sais, c'est comme de mettre tout le monde dans le même panier en disant, ben c'est sûr qu'une personne qui va garder ses organes génitaux masculins va vouloir les utiliser pour avoir des actes qui
Non, c'est pas ça qu'on dit, mais c'est parce qu'il y a eu des exemples. Il y a eu des exemples, Monsieur Bédard, de gens qui, par exemple, quelqu'un qui était un agresseur sexuel et qui avait conservé ses organes génitaux mâles, puis on l'envoyait dans une prison pour femmes. Donc il y a cette inquiétude-là. Je suis vraiment désolée de vous dire ça. C'est le genre de phrase qu'un intervieweur déteste dire, mais c'est tout le temps qu'on a. Écoutez, j'ai vraiment apprécié cette conversation. Je pense qu'on pourrait en avoir de long à se dire. Donc on se donne rendez-vous aussi pour une autre discussion. Je rappelle que votre lettre, donc, est publiée dans la section « Faites la différence », Journal de Montréal, Journal de Québec. Vous appelez Alexandre Bédard, bientôt papa, félicitations, conseiller aux enjeux trans à Alliance Arc-en-Ciel de Québec. Merci beaucoup de cette discussion.
Merci à vous.
Et c'est comme ça que se termine l'émission pour aujourd'hui. Merci à Jean-François Paquet, à la mise en onde, à la réalisation. Et hier, je l'ai appelé Paquette. Paquetteville, Paquetteville. Ben non, c'est Jean-François Paquet. Bon, voilà, à la mise en onde, à la réalisation, Florence Lamoureux à la recherche. Ben moi, je m'appelle Sophie Durocher. Et je vous retrouve demain avec le plus grand plaisir du monde.